Bezrat Hashem, on va voir ensemble un shiur sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Korach. Alors, un peu particulière, parce qu'on voit que on est dans une période, on est juste après Shlach Lecha, on nous parle là-bas de la faute des Meraglim, qui est assez conséquente, vu que jusqu'à aujourd'hui, on est en train de payer cette faute. Après, on voit, on enchaîne directement avec Korach. Est-ce qu'il y a un rapport? Pourquoi ces deux fautes, elles sont mises l'une juste après l'autre? Quand on sait que dans la Torah, En Kadman Batra, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est-à-dire l'ordre des événements des parachiotes n'est pas forcément le véritable ordre chronologique. Donc là, on se pose une question, Korach, c'est avant, c'est après, c'est... pourquoi c'est... on les met juste l'une après l'autre? Alors, pour bien comprendre, on doit parler de la parachute de la semaine dernière. La semaine dernière.
Ah oui.
Ah oui, Shlach Lecha.
Pourquoi c'est juste après le Myriam?
Ben, aussi, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, on reprend. Alors, si on reprend, hein, juste avant la paracha, on voit à la fin de la paracha qui précède Shlach Lecha, on parle de Myriam Anivia. Myriam Anivia, elle a fait du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. D'accord? On voit que les Meraglim, ils ont fait du Lashon Hara et même du Motzi Shemra sur la terre d'Israël. D'accord?
Ça veut dire...
Alors, on y va. Le Lashon Hara, c'est la médisance, d'accord? De prendre un fait réel et de le présenter sous un angle négatif ou de le présenter de façon à ce que les gens l'interprètent de façon négative. De façon négative, d'accord? Maintenant, le Motzi Shemra, c'est la diffamation. La diffamation, je prends la diffamation, Motzi Shemra, d'accord? Donc, Motzi, c'est sortir, Shemra, un mauvais nom à une personne. Comment? On diffame la personne. On diffame son nom. On invente un mensonge pour que les gens la voient de façon négative. D'accord? Maintenant, de ce fait, on voit que ces deux fautes sont très graves. Maintenant, on voit, hein, par rapport à ça, que maintenant, nous, par rapport à la faute des Meraglim, qu'est-ce qui s'est passé avec les Meraglim? Les Meraglim, il est rapporté dans le Midrash. Il a rapporté dans le Zohar que la véritable intention des explorateurs, d'accord, était tout simplement de rester le plus proche possible de Dieu. Ils ne voulaient pas s'éloigner de Dieu. Ils savaient très bien qu'en restant dans le désert et en gardant Moshe Rabbeinu à la tête du peuple, Moshe Rabbeinu, il avait accès direct à Dieu, vu qu'il parlait directement avec Dieu. Donc s'ils avaient la moindre question sur les lois ordonné par Dieu, les lois de la Torah, ils avaient directement Moshe qui pouvait poser des questions. Moshe, en cas de doute, il pouvait poser directement ses questions au bon Dieu. Ils sont top. Ils ont les nuées de gloire, les ananés kavod dans le désert, qui leur nettoient leurs vêtements, qui leur font grandir leurs vêtements sur eux-mêmes. D'accord? Ils ont la manne qui descend du ciel. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête, ni de travailler la terre, ni de faire des guerres, rien du tout. Ils restent dans le désert, ils sont au top du top. Avec Moshe Rabbeinu, on est d'accord ou pas? C'était ça leur véritable intention. Maintenant, on voit au début de la paracha, c'est marqué « Shlach Lecha », « Envoie pour toi des Meraglim ». Oui, des explorateurs. Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Moshe? Moi, je ne t'ordonne pas de les envoyer. Tu veux les envoyer, envoie-les pour toi. Pourquoi? Parce que, vu qu'il y a eu un grand nombre de révoltes dans le désert, de la part d'Ebni Israël, 10 en tout, d'accord? Dieu dit à Moshe, tu sais quoi? Envoie-les dans le désert. Envoie-les en Israël, vérifier la terre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en train de dire que finalement, ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient en Israël. Mais de l'autre côté, comment les Meraglim, les explorateurs qui étaient des chefs de tribus, d'accord, qui étaient des princes à la tête des tribus, comment les explorateurs sont arrivés à convaincre Moshe Rabbeinu? Ils ont dit, écoute, voilà. Et c'est très important de le savoir, ça, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont dit, regarde, Dieu, avant qu'on sorte d'Égypte, une des dernières plaies qu'il a envoyées, c'était la Maka trop chère. D'accord? Donc, la Maka trop chère, la plaie des ténèbres. Durant cette plaie, les Égyptiens étaient immobilisés par les ténèbres eux-mêmes, qui étaient très épais, et les Juifs pouvaient se déplacer. Ils sont allés de maison en maison, parce que Dieu avait ordonné à Moïse de le faire, pour repérer les richesses des Égyptiens. Pourquoi ? Parce que les Égyptiens, au moment où les Juifs partiraient d'Égypte, viendraient leur offrir des cadeaux. Et là, les Juifs pourraient dire, mais attends, dans ta commode, troisième tiroir, le petit collier en diamant, tu l'as oublié celui-là. Et l'Égyptien, il viendrait le donner. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que lorsque Dieu mène une guerre pour le peuple d'Israël, Dieu prend l'engagement non seulement de nous faire gagner cette guerre, mais de donner les richesses de nos ennemis. D'accord ? Eh oui. Donc de ce fait, quand on est sorti d'Égypte, comme Dieu a mené une guerre pour nous contre les Égyptiens, on a hérité des richesses des Égyptiens au moment de la sortie d'Égypte. De ce fait, ils ont dit, maintenant Dieu veut nous faire entrer en Israël. Maintenant en Israël, d'accord, Vatem Tacharishun, c'est vous qui allez hériter de cette terre. Ok ? Maintenant, vous devez aussi hériter des biens des peuples qui sont sur cette terre. Il y avait 7 peuples sur cette terre-là. D'accord ? 7 peuples qui, de par leur manque de moralité et leur mécréance, Dieu a décidé de les mettre là-bas en se disant, un jour ou l'autre, je vais les sortir de là. D'accord ? Tout simplement. Pourquoi ? Parce que cette terre appartient au peuple d'Israël, vu que je l'ai promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov et leurs descendants. Maintenant, ce qui se passe, c'est extraordinaire. Ils disent, écoute, nous maintenant, on a besoin d'aller repérer toutes les richesses. Pourquoi ? Parce que parmi ces peuples-là, il y a les Kénaanim, qui étaient les plus nombreux, les Kénaaniens. Et eux, leur coutume était, lorsqu'ils se préparaient à la guerre, d'enterrer leurs biens mobiliers, d'accord ? Sous la terre. Donc leur or, leur argent, leurs bijoux, leurs pierres précieuses, d'accord ? Tout, ils enterrent sous la terre. Ils ont dit, donc, laisse-nous maintenant. Ils savent qu'on est en train d'arriver, vu qu'on a mené des guerres contre Sihon, d'accord, et Moab, donc Og et Sihon, etc. Et on a massacré des rois dans le désert. On s'est battu contre les Amalékiens, d'accord. Donc, laisse-nous rentrer, vérifier où sont les richesses. Mon chéri, vous savez quoi ? Vous avez raison. Allez-y. Il devait vérifier où étaient les richesses. C'est comme ça que Moshe les a laissées. C'est comme ça que Moshe a été convaincu. Il lui a laissé aller repérer les richesses. Ça tenait la route. Ça ne tenait pas à ce qu'on ait 10 qui fomentent un complot. Même de la même façon, on voit quoi ? On voit qu'il y a une autre question alors qui se pose. On voit au début de la paracha Shlach Lecha, hein, on voit qu'il est dit que Vaikra Moshe Léoshéa, d'accord, Benoun, Yehoshua. Et Moshe a appelé Hoshéa Binoun, Yehoshua, il lui a rajouté le Yud de Sarai, d'accord, qui est devenu Sarah, le Yud on l'a pris, on l'a donné à Yehoshua. C'est très joli, c'est un midrash, magnifique. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit donc, et pourquoi on dit qu'il y a eu ce changement de nom ? Pour protéger Hoshéa de la faute des Meraglim. Donc, je ne comprends pas. Moshe, il était au courant ou il n'était pas au courant ? Il savait qu'ils allaient fauter les Meraglim ou il ne savait pas qu'ils allaient fauter les Meraglim ? S'il a changé le nom de Yehoshua. Maintenant, il a changé le nom de Yehoshua. Pourquoi Caleb Ben Yefouné, il ne doit pas changer son nom ? C'est une bonne question. Elle est bonne, la question. On va répondre. Hoshéa, on voit en réalité, si on lit à l'envers le mot, de la fin jusqu'au début, on voit que c'est le nom de Esav, et après il reste la lettre E, Hachem. Donc, en réalité, il faisait partie de la tribu de Yosef, Hoshéa. Et en réalité, l'équivalent du bien de Esav, c'était Yosef, vu que Esav était comparé au taureau de l'impureté et que Yosef était comparé au taureau de la pureté. Donc l'un faisait tête à l'autre. Lorsque ils sont revenus en Israël avec Rachel Imenu, c'est Yosef qui s'est dressé devant Esav pour protéger sa mère, qui à la base aurait dû épouser Esav. Vu qu'à la base, Esav était destiné à épouser Léa. Mais comme Yaakov a épousé Léa en premier, Rachel aurait dû, à la place de sa sœur Léa, épouser Esav. Suivez ou pas ? Bon, donc c'est Yosef qui s'est opposé. Le problème qu'il y a, c'est qu'on apprend une notion extraordinaire. À force de vouloir s'opposer à une chose et de lutter contre une chose, on peut finir par être influencé par cette même chose. C'est intéressant. De ce fait, le travail de la tribu de Yosef, qui était de se battre contre le matérialisme de ce monde, en utilisant le monde matériel pour arriver à en faire du spirituel. On voit bien que Yosef, lui, lorsqu'il va arriver en Égypte, il va, à travers l'interprétation des songes de Pharaon, lui expliquer comment, durant 7 années, ils vont devoir mettre des récoltes de côté pour, durant cette année de famine, être transformé d'un seul coup en nation, première nation mondiale de la région. D'accord ? Parce qu'ils ont eu, avant la famine, ils ont eu la bonne idée d'écouter Yosef et de mettre de côté un maximum d'épices, un maximum de graines pour pouvoir les revendre après, durant la famine. Donc maintenant, la question, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef ? Le job de Yosef, de la tribu de Yosef, c'est Yosef Bagdoucha. Il rajoutera le nom de Yosef, ou Yosef Bagdoucha, il rajoutera dans la sainteté. Comment ? En nous permettant d'utiliser le monde matériel pour le sanctifier. Donc ne pas le laisser détourner par le monde matériel. La notion de Esav, qu'on appelle aussi Edom, pourquoi on l'appelle cette nation Edom ? En souvenir de la vente du droit d'aînesse, d'accord ? Au moment de la mort de leur grand-père Avraham Avinu, Yaakov prépare un plat de lentilles. Esav rentre d'une bataille durant laquelle il a vaincu le roi Nimrod.
Dire Yitzhak, ça sera mieux.
Hein ?
Plutôt Yitzhak, le grand-père. Ah non.
Non, leur grand-père, à Yaakov. Et à Esav, leur grand-père, c'est Avraham.
Oui.
Leur père, c'est Yitzhak.
Oui, non, mais d'accord.
Donc, au moment de la mort de leur grand-père Avraham, Esav, lui, est en train de rentrer du champ de bataille. Il vient de vaincre Nimrod. Et à ce moment-là, tout simplement, il arrive, il voit son frère Yaakov qui prépare un plat de lentilles parce qu'ils étaient durant les Shiva de Avraham Avinu. Okay. Et il lui dit, donne-moi de ce Adam Azé, donne-moi de ce plat rouge-là. D'accord ? Parce qu'il s'attachait tout simplement au matériel avant toute chose. On voit aujourd'hui la nation qui, par excellence, est la digne héritière de la notion et de la culture de matérialité des Grecs et des Romains. Aujourd'hui, c'est les Américains. Et on voit qu'en anglais, quand on décrit un objet, on décrit d'abord sa couleur et après l'objet. On ne va pas dire une voiture rouge, a car red. On va dire a red car. D'abord, on dit qu'elle est rouge, après on dit que c'est une voiture. Oui ? On s'attache tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes aujourd'hui, on le voit, c'est le pays dans le monde auquel on est le plus attaché au sport. Ils ont le football américain, ils ont le baseball, ils ont le hockey, ils ont le basket. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Ils ont apporté le soccer maintenant. Ils aiment le sport, mais ils remplissent des stades et des stades. Ils remplissent des arènes pour voir le sport aux États-Unis. Oui ? Non, mais aux États-Unis plus qu'ailleurs. Il y a une culture. Il y a la culture du Super Bowl, il y a la culture du championnat de baseball, il y a la culture du championnat NBA. Vous comprenez ou pas ? Ils ont une culture du sport poussée, extrême. On la retrouve aussi en Europe, mais c'est beaucoup plus poussé chez les Américains. Ils ont un amour du matériel. Vous allez aux États-Unis, les rues sont plus larges, les immeubles sont mieux fabriqués. Dans les voitures, c'est le pays où il y a le plus de gadgets dans les voitures. Comprenez ou pas ?
Oui, mais enfin, ils ont de la place. Ils ont construit des grandes rues, c'est qu'ils ont de la place. Nous, on n'a pas beaucoup de place.
Mais c'est un choix. C'est un choix qu'ils ont fait. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Ils auraient pu faire des villes avec des rues plus petites et des immeubles moins hauts. Et avoir plus de place dans leur grande ville. D'accord ? Aujourd'hui, dans la ville de New York, ils ont un problème avec les gens qui n'ont pas de logement. Peut-être parce qu'ils ont construit un peu trop large. Il fallait réfléchir avant. D'accord ? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement que... On voit qu'il y a un amour du monde matériel. D'accord ? La tribu de Yosef devait aider les Bnei Israël à prendre le matériel et à transformer en spirituel. Le problème qu'il a, c'est qu'il s'est dit, là-bas, il va avoir peut-être des richesses. Il va avoir peut-être, Oshéa, peut-être qu'il sera appelé à être détourné. Aller vers la notion contre laquelle il lutte, c'est-à-dire de plonger dans le matériel. Parce qu'il faut savoir que les peuples qui habitent sur place sont extrêmement riches. Parce qu'il y a une bénédiction sur la Terre Sainte. Donc même les peuples qui ont logé sur cette terre-là ont fait fortune. Il y a de grandes richesses en Israël. C'est un pays extrêmement riche. Il ne faut pas qu'il se laisse tenter par ses richesses. Il ne faut pas qu'il se laisse détourner par ses richesses. Donc de ce fait, il a béni. Vous comprenez ou pas ? Et au lieu de laisser dans un mode passif, Oshéa, celui qui est libéré. Il s'appelle Yehoshua, celui qui va libérer les autres. Ouais ? Ça c'est premièrement. D'accord ? Pour qu'il soit plus en mode passif. Maintenant, pour quelle raison le protéger de quoi ? Parce que tous les autres, en réalité, tous les autres explorateurs, Moshe n'est pas dupe. Il savait que quelque part, ils allaient avoir un contrôle de la terre et avoir des réflexions. Mais chacun avait au potentiel de dire le bien comme de dire le mal, dans son nom lui-même. Ce soir, on parle. Le chèque, non, non, pardon, non, c'est extraordinaire. On va pas le faire maintenant, mais c'est extraordinaire. Quand on voit le détail des noms des Miraglim, d'accord, c'est assez impressionnant. Maintenant, tout simplement, pour vous donner un exemple, hein, pour le maté de Hacher, il y en a un, l'explorateur envoyé, le nation envoyé, il s'appelle Sétour Ben Michel. C'est quoi Sétour? L'Astir, caché. C'est quoi aussi? L'Histor, détruire. Vous comprenez ou pas? Donc, déjà, dans son nom, c'est assez impressionnant. Vous comprenez ou pas? Maintenant, pourquoi Caleb Ben Yefouné, on ne lui a pas changé son nom? Parce que son nom, c'est justement Caleb, comme son cœur, Ben Yefouné, il ira, il suivra son cœur. Maintenant, Chachamim disait, Ezoï Avoda, Avoda chez Balev. La Avoda qu'on a dans le cœur, c'est la Tfila, d'accord? Ezoï Avoda chez Balev, Tfila. Voilà ce qu'il nous dit Chachamim. Et Caleb Ben Yefouné, c'était un très grand Baal Tfila, c'était un homme qui passait son temps à prier. Il disait, lui, il va être sauvé par sa prière. Maintenant, en espérant qu'il soit de bons conseils pour les autres, membres des autres. D'accord? Jvatim. Maintenant, regardez, la tribu de Réouven, il s'appelle Chamois Ben Zakour. D'accord? C'est quoi Chamois? Chamois, c'est quoi une chmois? C'est un bruit qui court dans la rue. Oui? D'accord? Ben Zakour, celui qui va se souvenir de ce qu'il a envie de faire entendre aux autres. C'est en réalité son nom. C'est extraordinaire. On voit Échec. L'autre, il s'appelle, tribu de Shimon, il s'appelle quand même Shafat Ben Chori. Shafat Ben Chori, celui qui juge. Shafat, il a jugé. Ben Chori, d'accord? Il voit tout de façon sombre, parce qu'il est dans un trou. Dans son trou à lui. Il juge les choses sur son point de vue à lui. Donc, c'est à lui de décider quel point de vue il a envie de voir dans la terre d'Israël. Et chacun, il avait ce potentiel-là. Maintenant, on voit en réalité que on voit qu'il y a une question qu'on pourrait poser. Pourquoi le terme qui est employé ici, c'est le terme la tour, Feyatourou? Pourquoi ce n'est pas le terme les Raguel? C'est des Miraglim. Oui, ils vont pour espionner. On peut utiliser le terme les Raguel, non? En plus, ça s'appelle les Miraglim, pas les Tayarim. Pourquoi on dit la tour? Parce que ils vont quoi? C'est les Tayarim? On dit non, on dit pourquoi? Parce que la tour, la valeur numérique de la tour, c'est 437 avec le mot la tour lui-même. La valeur numérique, c'est 436. Si je rajoute le mot, ça fait 437. Irat Hashem. Irat Hashem, quand j'écris Hashem, Yudke, Vavke, la valeur numérique, c'est, 637. C'est la même valeur numérique de la tour. La tour, 637. Irat Hashem, 637. C'est la même valeur numérique. Pourquoi? Et de plus, on dit, mais pourquoi c'est marqué Veyatourou? On dit Altikra Veyatourou et là, Yevatrou. Ne dis pas, hein, ils vont aller visiter la terre. Simplement, Yevatrou, ils vont renoncer à la terre. L'Evater. Alors pourquoi? Tout simplement. Parce que justement, ils voulaient rester dans le désert, proche de Dieu, etc. Ils ne voulaient pas du Olamazé. Ils ne voulaient pas faire une avoda qui les obligerait à concilier le monde matériel et le monde spirituel. Ils voulaient que le monde spirituel dans le désert. Rester le plus proche de Moshe Rabbeinu. Se couper de ce monde-ci. Le travail de l'humain à travers la volonté de Dieu et cette création, c'est d'arriver justement à se confronter au matériel et à tous les mauvais penchants qui peuvent en découler et arriver à les surmonter. Sinon, on n'a pas de mérite. Oui? Donc, de faire une avodat Hashem dans le Olam Hazé et transformer ce Olam Hazé en début de Olam Haba. En faisant son petit coin de paradis à travers sa avodat Hashem. Sa façon d'appliquer Torah au Mitzvot à la maison. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que la ira de Shamaïm, elle est tout à fait relative. Et on le voit avec Korach aussi. Korach, et là, c'est le rapport entre les Miraglim et Korach. On voit en réalité que Korach, lui, on le dit au début de la paracha, il est révolté du fait qu'on ait nommé le fils de Uziel à la tête de la tribu de Kehath. Dans la tribu de Lévi, il y a plusieurs familles. Il y a la famille de Kehath, d'accord? Le père de Korach, qui est Itzar, c'est le fils, c'est le second fils de Kehath. Le fils aîné de Kehath, c'est le père de Moshe et de Aaron, donc Amram. D'accord? Donc il dit normalement, celui qui devrait être nommé Nassi de la tribu, ça devrait être moi, le fils du deuxième fils de Kehath. Si le premier fils, il y en a un, il a été nommé roi, Moshe Rabbeinu était considéré comme étant roi d'Israël, et Aaron a été nommé grand prêtre, moi, je devrais être nommé Nassi de la tribu de Kehath. C'est un minimum. Comme il n'a pas été nommé, alors qu'il était porteur de l'Arche Sainte. alors que c'est un tzaddik, alors que c'est un homme extrêmement riche qui faisait extrêmement de bien dans la communauté. D'accord ? Si pour tout ça, je n'ai pas été respecté. On voit quoi ? On voit que les Béraglim, leur Irat Shamaim, elle a été relative. Pourquoi la tour ? Parce que bon, Irat Hashem. Parce que leur Irat Shamaim, c'était quoi ? Se dire, nous, on craint Dieu, mais on veut travailler Dieu comme nous, on l'entend, pas comme Dieu le veut de nous. Nous, pour nous, c'est quoi la Torah que Dieu nous a donnée ? C'est pour nous rapprocher de Dieu. Viens, on reste dans le désert, comme ça, dans le désert, sans entrer sur la terre d'Israël. On n'a pas le travail matériel, on n'a pas besoin de faire des guerres, on n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin de tout ça. Et on est directement le plus proche de Dieu. Donc, eux, leur crainte de Dieu, ça a été quoi ? Leur interprétation de la Avodat Hashem. La Avodat Hashem qui leur convient à eux pour rester le plus proche de Dieu. Mais c'est pas ça, la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est quoi ? C'est faire ce que Dieu attend de toi. Pas ce que toi, tu comprends de la Torah, mais ce que Dieu attend de toi à travers la Torah qui t'a ordonné. Donc que toi, tu arrives à comprendre la Torah telle que Dieu te l'a ordonnée, pas comme toi, tu as envie de la comprendre. Parce que si on commence comme ça, alors après, on peut devenir des réformistes aussi. Parce qu'après, on a envie d'appliquer la Torah comme on a envie. Oui, Shabbat, est-ce que je peux allumer ? Je ne peux pas allumer la lumière. Avant tout, il faut être un Ben Adam, non ? C'est grave ce que je suis en train de dire. Mais c'est le début. C'est le début de la fin quand on se dit au nom de la Yirat Hashem, moi j'ai la crainte de Dieu, mais je fais ce que je veux. Ou j'interprète la Avodat Hashem comme j'en ai envie. C'était là le danger de la façon, et c'était là la faute des Meraglim. Bien qu'ils étaient à un niveau d'application en Torah très grand. C'était des grands tzadikim. Mais un tout petit degré de rien du tout, à leur niveau, ils sont trompés. Et ils ont fait fauter tout le peuple avec eux. Quel soir ils sont venus, ils ont mal parlé de la terre d'Israël. Le soir de Tisha B'Av. Bon Dieu, il a dit quoi ? Vous pleurez pour rien. Pleurez pour rien, je vous donne une bonne raison de pleurer. Et on voit Tisha B'Av depuis, toutes les catastrophes, les plus grandes catastrophes qui ont touché le peuple d'Israël, qu'on parle de la destruction du premier temple, du deuxième temple, ou encore de l'Inquisition, tout a commencé à Tisha B'Av. Oui ? Tout s'est passé à Tisha B'Av. Donc, on voit quoi en réalité ? On voit en réalité tout simplement... Par rapport à ce qu'on est en train de dire ici, une chose extraordinaire. Ah, tu prends des notes ? C'est bien. L'enregistre, il prend des notes. On voit en réalité ici une chose extraordinaire. C'est quoi en réalité ? C'est que Korach, lui, dans sa façon d'appliquer la Yirat Shamaim, d'accord ? Il s'est dit quoi ? Il dit, attends, mais moi, je suis un tzaddik. Moi, je suis sans reproche. Moi, je suis porteur de l'Arche Sainte. Moi, mon père, c'est un tzaddik. Je fais partie d'une famille, quand même. Je suis le cousin de Moshe et Aaron. Je ne suis pas n'importe qui. Et j'ai de l'argent en plus. J'ai la bracha dans la pranassa. Donc on doit me donner du kavod. Donc ça a été quoi, lui ? Ça a été de dire justement, dans les deux sens, on a un problème ici avec la Yirat Shamaim. Parce que Korach, lui, pensait qu'il serait mieux, d'accord, en tant que nassi de la génération, que plutôt que de voir le fils de Uziel devenir nassi de la génération. Uziel était le plus jeune fils de Kehat. D'accord ? Donc il s'est dit comment ? On me fait passer après. Donc, en réalité, d'accord, Elitzfan Ben Uziel, qui a été nommé chef de la tribu de Kehat. Maintenant, on voit comme ça. On voit donc, pour le Kavod, Korach, il va se laisser détourner. Mieux que ça. On voit On Ben Pelet, de la tribu de Reuven. Qu'est-ce qui va le sauver dans la révolte contre Korach ?
Sa femme.
Qui va le faire boire. Et elle va se mettre à l'entrée de la tente. Elle va se découvrir la tête en disant... Malheur à moi, j'ai perdu mon mari. Et elle va faire croire que son mari est mort. Elle a sauvé son mari du débat. Elle lui dit, ne suis pas Korach. Et Korach, lui, ainsi que Datan et Aviram, avaient des épouses qui, elles, au contraire, disaient à leur mari, ton kavod avant tout, ta Yirat Shamaim, tu as la chorma, tu as la stature, tu as le statut, tu as tout ce qu'il faut, sors contre Moshe, c'est pas normal. Comprenez ou pas ? Et ça les a perdus. Ça les a perdus. Mieux que ça, Korach, il avait le roi HaKodesh. Il avait le souffle divin, il arrivait à voir le futur. Il avait vu que dans le futur descendrait de lui Shmuel Hanavi, le grand prophète, qui était considéré comme étant plus grand que Moshe et Aaron réunis. On prend Moshe et Aaron, on les met dans un blender, on les mixe ensemble, on sort un seul monsieur... Avec le mérite de Moshe Aaron, Shmuel Hanavi, il est plus grand que les deux. Ensemble. Si mon descendant est plus grand que Moshe Aaron, c'est quoi la règle ? C'est qu'en général, les descendants sont moins grands que les ascendants. Donc il se dit, si mon descendant, dans plusieurs générations, sera plus grand que Moshe Aaron, ça veut dire que moi, déjà aujourd'hui, je suis plus grand que Moshe Aaron. Et ça l'a encouragé à sortir contre Moshe Aaron. Très grave. Pourquoi ? C'était quoi Seirat Hashem ? Seirat Hashem, elle s'arrêtait à lui. Comment lui, il se voyait dans sa Avodat Hashem, il s'est dit, mais moi, je suis au top du top. Il essaye d'imaginer. Elle est où, Seirat Hashem ? Moi, je me lève tous les matins en mikvé, je vais tous les jours à la synagogue, j'étudie tous les jours au Beth Midrash 10 heures par jour, je fais des travail sur mes midot, oui ou non ? D'un seul coup, je vais dire, bah, je suis mieux que tout le monde. Donc, si je suis mieux que tout le monde, Dieu, il devrait m'écouter moi plus que les autres. C'est ça, Korach. Chaque personne qui commence à réfléchir comme ça, et on voit chez le Baal Teshuvah, il est dit dans la Gemara, que le Baal Teshuvah, au début, il crie, il hurle, pour se faire comprendre. Et après, il devient Chacham, il commence à écouter. Bien entendu, il arrête de parler, il commence à écouter. Quelqu'un qui fait Teshuvah, il veut imposer sa Torah à lui, telle que lui l'a comprise, aux autres. Maintenant, il n'a pas eu des années d'études derrière lui. Il n'a pas été forcément formé par de grands maîtres ou par des bons maîtres. D'accord ? Et forcément, il arrive avec des chumrot ou avec une compréhension personnelle de certaines halakhot, où parfois on a des balais de chouva qui débarquent, mais avec des chumrot et qui font l'enfer à toute leur famille. Et après, on va poser la question à un rav, et le rav, il dit, mais oh, il va voir, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Comprenez ou pas ?
J'ai jamais dit ça.
Hein ?
J'ai jamais dit ça.
Donc, tout simplement, on parle pas de vous. Je sais pas de quoi vous parlez.
Le rav, il dit, j'ai jamais dit ça.
De quoi ? Ouais, le rav, justement, oui, il dit, moi, je n'ai jamais dit ça. Bon, mais là n'est pas la question. C'est qu'après, dans le milieu de la teshuva, il y a énormément de gens aujourd'hui qui enseignent. Aujourd'hui, même sur Internet, on trouve énormément d'enseignements de gens qui ont une motivation pure, un cœur noble, qui veulent réellement renforcer le peuple d'Israël, mais qui n'ont pas reçu la formation adéquate. Et parfois, au lieu de former, ils déforment. Oui. Et là, c'est un problème. Donc, tout simplement, on voit quoi ? On voit tout simplement qu'il faut être assez relatif, comprenez ? Il y a des halakhot qui sont extraordinaires, qui sont relatives d'une coutume à l'autre, etc. Mais il n'empêche que lorsqu'on constate parfois qu'on arrive à des choses terribles dans certaines familles, je ne peux pas raconter parce qu'on va tomber dans du lashon hara à un niveau à un autre. Je ne peux même pas donner d'exemple. Mais il faut bien y réfléchir, en réalité. La Torah, elle est là pour nous unir, pas pour nous désunir. D'accord ? Même quand il y a des différences de niveau d'application, tant qu'il y a un respect mutuel et que le religieux est respecté par sa famille, ainsi que la Torah, il n'y a pas de raison pour le religieux de s'éloigner de sa famille. Comprenez ou pas ? Moi, quand j'ai des gens qui m'invitent dans un mariage, on va dire des choses telles qu'elles sont, d'accord ? J'explique aux gens, mais est-ce qu'au niveau du mariage, est-ce qu'au moment des danses, est-ce que ça va être séparé ? Parce que les gens veulent que je reste toute la soirée. On me dit, ah, maintenant, Vodara, vous allez vous asseoir là-bas, dos à la piste. Attendez, pourquoi moi, le ravin, vous voulez que je reste ? Pourquoi moi, je dois aller dans un coin, d'accord, jeté, dos à une piste, et je vais me faire casser les oreilles, je ne peux pas tourner la tête, je ne peux pas regarder à droite, à gauche. Soit vous me respectez, et que il y a un moment donné où c'est totalement séparé. Et après, quand je pars, vous faites ce que vous voulez. D'accord ? Soit vous faites toute la soirée séparée, et là je viens, soit une partie de la soirée se séparée, et je reste pour les danses. Mais si vous pouvez ni ça, ni ça, je vois pas pourquoi je vais rester. Vous comprenez ou pas ? Moi, je peux vous donner un exemple. Il y a une soirée où j'ai été récemment, la famille n'est pas forcément religieuse, mais ils ont fait l'effort de commander des plateaux lamehadrine pour tous les membres de la famille plus religieux. Et pendant 2 heures, en début de soirée, il y avait une mechitsa. Mais plus méritza que ça, il n'y a pas. Donc, ils ont séparé totalement la salle. D'accord ? Il y avait le côté homme, le côté femme, pendant plus de 2 heures pour respecter la famille. Et j'ai vu des membres de la famille religieuse qui sont venus pour la roupa et qui sont partis. Je leur ai dit, c'est dommage. Ils ont fait l'effort des plateaux. Ils ont fait l'effort de la méritza. C'est comme ça que ça commence. À travers les efforts. Le fait que vous partiez, c'est un peu dommage. Et je les ai retenus. Vous comprenez ou pas ? Parce que c'est important, la Torah, elle est là pour nous unir, pas pour nous désunir.
Justement.
Dans le cadre du respect de la halakha. Et ouais, pas uniquement du respect de l'autre. Donc, Maintenant, qu'est-ce qu'on voit, tout simplement ? On voit quoi ? On voit que, et à travers ce respect mutuel, tous ensemble, on se dit, il y a un Shulchan Aruch, il y a une halakha, viens, pendant 2 heures, on se met d'accord. On respecte tous la halakha. Après, chacun fait sa vie, chacun son niveau. Comprenez ou pas ? Pour arriver à ce moment-là, d'osmose, où on est tous unis, ce moment de Simcha, tous unis ensemble. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. C'est une question de bonne volonté de chacun. D'accord ? Maintenant, quand il y a d'un côté, on dit « Ah, vous les religieux !» Et de l'autre côté, j'entends « Ah, vous les non-religieux !» Il y a Baba. Quel exemple on donne ? D'accord ? Et comment l'Yetzer Hara, il est en train de danser dans le ciel ? Parce qu'il nous tourne en bourrique. Donc on voit en réalité, c'est quelques points comme ça, qui sont assez importants. D'accord ? On voit que l'erreur de Korar, c'est de venir et de dire « Moi, je suis mieux que tout le monde. » Elle est où, la Yirat Shamayim ? Les Miraglim ont fait la même erreur. Ils ont pensé que leur jugement était mieux que tout le monde. Alors que c'est anti-Torah. Justement, toute la beauté... toute la beauté de la Torah, c'est ce qui nous unit justement. C'est la loi qui nous a été ordonnée par Dieu. On se met d'accord au niveau de la halakha. Comprenez ou pas ? À partir du moment où on est d'accord sur la halakha, il n'y a pas de place pour savoir qui est mieux, qui est moins bien. Et à savoir comment appliquer la halakha. Après la place de chacun, Kulanu Arivim Zelazé, on est tous garants les uns des autres, on doit tous se compléter les uns avec les autres. Les Miraglim se sont crus au-dessus de tout le monde et ont cru pouvoir prendre des décisions pour l'ensemble du clan d'Israël. D'accord ? Et parfois, on peut avoir des leaders qui peuvent jusqu'à aujourd'hui, des leaders politiques ou autres, qui peuvent faire ce genre d'erreur. D'accord ? Malheureusement. Et de l'autre côté, on voit hein, qu'on a Korah. Et c'est quoi ce rapport ici qu'on a ? C'est un rapport à l'autorité, quelque part. C'est, on se dit, moi, l'autorité, je l'ai mieux compris que l'autre, mais c'est quelque part le jeu du Yetzera de se dire, du fait que moi, je sois représentant de l'autorité, je suis explorateur, ou moi, je sois représentant des porteurs de l'arche, je suis Korah, d'accord ? Et que je fasse partie des nobles descendants des fils de Kehat, d'accord ? Donc maintenant, et que je suis un tzaddik, donc je deviens le digne héritier représentant de l'autorité divine. Si moi je suis le digne représentant de l'autorité, l'autorité, vu que je la représente, je deviens moi-même l'autorité. Mais quand on commence à réfléchir comme ça, on est en train en réalité de se soumettre à la véritable autorité divine, à Kadosh Baruch Hu et à la véritable Yirat Shamayim. Ça a été là le problème. De la même façon, quand une personne a du mal avec l'autorité, on voit aujourd'hui, en termes d'éducation, on voit parfois des enfants. C'est très marrant. Moi, j'ai des gens qui me disent « Mon fils, il se rebelle. » Maintenant, ça dépend de la ville. Hein. Alors, s'il est dans un quartier qui n'est pas religieux, il se rebelle en devenant religieux. Et s'il est dans un quartier religieux, il se rebelle en devenant non religieux par rapport au milieu qu'il fréquente. Après, on dit « C'est lié de Sarah. » On dit « Non, c'est humain de vouloir, à un moment donné, pour s'émanciper, d'accord, à un niveau ou à un autre, vouloir s'affirmer. Et quand on s'affirme, on se soustrait à l'autorité. On devient un rebelle, entre guillemets. Maintenant, ça nous suit toute notre vie. Et même quand on pense qu'on est un tzaddik, comme Korar, c'était son cas, porteur de l'Arche Sainte, une seule mauvaise pensée au moment où il était en contact avec l'Arche Sainte, il mourait sur place. Korar. Donc c'était son cas. Les Nissim, des tribus, c'était des tzaddikim. C'est pas des... D'accord ? Donc en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, à un moment donné, ils ont pensé faire le bon choix. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, Dieu, après tout, il nous a donné un libre arbitre. Et puis Marloket, les Shem Shamaim, sauf Alid Kayem, oui. Mais quand c'est une marloquette, les Shem Shamaim, il faut savoir combien c'est les Shem Shamaim et combien c'est les Shem Kavod. Combien on fait pour l'honneur de Dieu, combien on est prêt à débattre avec les autres pour l'honneur de Dieu, l'honneur de la Torah, et combien on le fait pour nous-mêmes. Comprenez ? C'est extraordinaire. Récemment, j'ai un monsieur qui m'a proposé, je lui ai proposé d'étudier de temps en temps, pour l'aider à s'améliorer dans son étude. Il me dit, ah, vous savez quoi ? Le livre que vous m'avez proposé d'étudier, on va s'inspirer de ce livre pour écrire un livre en français. Je me dis, le livre, il est déjà écrit en hébreu. D'accord ? Si je prends le livre en hébreu et que je le traduis, et qu'on met le nom d'un autre auteur, c'est une halakha qui nous l'interdit de le faire. Ça s'appelle Gezel Da'at. D'accord ? C'est voler le savoir de l'autre. On n'a pas le droit de prendre un livre, c'est très important, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui, de traduire le livre et de se l'approprier. Ou même de prendre plusieurs livres, parce que c'est marqué dans tous ces livres-là, qu'on n'a pas le droit d'utiliser ne serait-ce qu'une partie du livre sans l'autorisation de l'auteur. D'accord ? Donc de prendre plusieurs livres et de faire un mégamix de différents livres qui parlent du même sujet et de sortir un seul bouquin. C'est Gezel Da'at. Si on n'a pas l'autorisation des auteurs, c'est du vol. Oui ? Voilà, c'est le vol de la propriété intellectuelle. D'accord ? Donc on voit que c'est du vol. Donc le monsieur, il me dit, bon, mais vous savez quoi, Gvodarav ? Moi, je vous donne le maaser si on vend le bouquin. Et après, il m'a dit, non, vous savez quoi ? On peut être co-auteur dessus. Et moi, je me dis, il ne comprend pas. Il veut se servir d'un livre pour écrire un livre. Le livre, il est déjà écrit. Je ne peux pas l'aider à faire un truc pareil. Moi, je voulais l'aider à s'améliorer dans son étude. Maintenant, son étude, c'est devenu pourquoi ? Pour faire un bouquin. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire ? En réalité, si moi, j'étudie les Shem Shamayim, quand j'étudie la Torah, c'est vraiment, la Torah, c'est une chokhmah avec laquelle il ne faut pas faire de compte. Et les mitzvot, moi, je vous dis d'expérience, il ne faut surtout pas faire de compte quand on fait des mitzvot. Ceux qui s'amusent à faire des comptes quand ils font des mitzvot, ou quand ils veulent faire une action pour du zikoui arabim, ils ont un intérêt quelque part, à Kadosh Baruch Hu, à un moment donné, il va leur bloquer les portes. En leur disant, ce que tu veux, ce que tu fais, tu dois le faire que les Shem Shamayim. Et là, à Kadosh Baruch Hu, il envoie la bracha. Pourquoi ? Pour pas qu'on tombe dans ce piège de Korach ou des Miraglim. D'arriver, nous, à nous dire, je renforce les autres. D'accord ? J'ai écrit un livre pour renforcer les autres. Je permets aux autres, à travers mes cours, de se renforcer, etc. Je suis mieux que tout le monde. Donc, je peux me permettre de parler comme je parle, de prendre les gens de haut. D'accord ? Je peux me permettre beaucoup de choses. Mais on voit que Korach, ça l'a perdu. Les Miraglim aussi, ça les a perdus. D'accord ? Maintenant, de l'autre côté, il y a des halakhot qu'on connaît, que lorsqu'on voit des personnes, à plusieurs reprises, qui ont tendance à ne pas respecter certaines choses, alors, on leur parle une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, on peut se permettre en public de faire une remarque. Comprenez ou pas ? Quand ces choses-là, elles sont assez graves. Je vous donne un exemple. Quand une personne va s'amuser à manquer de respect à un rabbin en public, le rabbin, il dit rien une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la quatrième fois, le rabbin, il peut se permettre de rappeler aux gens le devoir de devoir respecter certains rabbanim plus que d'autres. Et je dis bien certains rabbanim plus que d'autres, vu qu'il y a des halakhot qui nous disent que si on a affaire à un Dayan ou un Avbeddin, ou si on a affaire à certains rabbanim qui sont des rachés Yeshivot ou des rachés Kolelim, on leur doit un respect tant qu'ils sont respectables. Ça, c'est important. C'est important. Parce que c'est pas parce qu'on est rabbin qu'on doit se comporter de façon irrespectueuse vis-à-vis des autres. Vous comprenez ou pas ? C'est simple. Voilà, il n'y a pas plus simple. Bezrat Hashem. On voit en réalité, ici, et on conclura là-dessus, avec l'aide de Dieu, on voit en réalité que dans toute cette révolte de Korach, le véritable problème qu'il y a eu entre Korach et Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour rien. Dieu, il a envoyé une bouche qu'il a créée veille de Shabbat, au moment de la création du monde, et qu'il a ressorti à ce moment-là pour aspirer dans la terre, d'accord ? Un aspirateur Roventa naturel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'accord ? Du 5 milliards de watts pour aspirer Korach et toute son assemblée dans la terre, ainsi que toute leur famille, leurs biens, même une aiguille, ils n'ont pas laissé derrière eux. Tout a été aspiré dans la terre. Pourquoi Dieu a fait une chose pareille ? Pourquoi il a mis un tel exemple ? Et il ne les a même pas tués. Il est rapporté que jusqu'à aujourd'hui, ils sont vivants. Et que si on retrouve là-bas, ils sont enterrés vivants. Et que si on arrive là-bas, on entendra Moshe Emet, Utorato Emet. D'où le verset Moshe Emet, Utorato Emet. À cause de la faute de Korach. C'est ce que Dieu leur oblige à dire chaque jour. Ceux qui ont été sauvés, justement, ce sont les fils de Korach qui ont réalisé au moment où ils étaient aspirés dans la terre la faute et ont fait Teshuvah. Et parce qu'ils ont fait Teshuvah, les fils ont eu le mérite de voir d'eux sortir Shmuel Hanavi. Et c'est un Korach qu'il n'avait pas vu. Donc on voit en réalité que c'est non pas notre mérite à nous qui nous donne le mérite de notre descendance, mais le mérite de nos actions et de notre teshuvah. Et de nos pensées. Et de notre façon de penser. Et d'arriver à se soumettre à l'autorité divine. Par excellence. À la Torah et aux mitzvot. À l'application de la Torah et des mitzvot. Et ça commence par, tout simplement, respecter le Shulchan Aruch. C'est très important. C'est très très simple. Donc Be'ezrat Hashem, que Dieu nous donne ce mérite. Et encore, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on voit qu'il y a, depuis des années maintenant, une campagne pour les femmes agounotes, les femmes qui restent enchaînées à leur mari et qui n'arrivent pas à divorcer. Mais on ne parle pas des agounim, on ne parle pas des maris qui veulent divorcer, dont les femmes refusent de recevoir le guet. On parle des femmes adultères, d'accord ? Une femme qui est soda, elle n'a pas le droit de rester avec son mari s'il s'avère qu'on a prouvé qu'elle est sota. Mais un homme, s'il arrive au Beddin et qu'il s'avère être un homme non seulement infidèle, mais en plus qui a des mauvaises mœurs, qui fait znout. Il faut savoir que normalement, al pi halakha, un homme qui fait znout, on voit bien que Zimri, il a été le chef de la tribu de Shimon, il a été mis à mort par Pinchas. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui fait znout, il est chayav mita. Et on n'a même pas besoin de deux témoins pour lui. À partir du moment où on sait qu'il a fait znout, on peut le tuer, al pi halakha. Aujourd'hui, on n'a plus de sénérie, on n'a plus de droit de passer par le glaive, entre guillemets, de tuer un homme qui est infidèle. Mais il faut savoir que dans le cas de la femme, il faut deux témoins, parce que les femmes, en général, ont plus de moralité que les hommes, et deux témoins que chérim, pour être sûr. Premièrement, le mari, il doit avoir des soupçons sur un amant. Deuxièmement, à partir du moment où il a exprimé ses soupçons, il faut que deux témoins que chérim aient vu cette femme s'isoler dans un endroit, fermé, suffisamment longtemps, pour avoir pu s'unir avec cet amant. Et à partir de ce moment-là, on lui fait un examen, on l'emmène au Beth Amikdash, on lui fait boire l'eau de la sota, pour vérifier si oui ou non, parce que c'est même pas sûr qu'elle ait trompé son mari. Alors qu'un homme, on entend qu'il a fait ce doute, on sait qu'il a fait ce doute, il y a une maîtresse qui nous dit qu'il a fait ce doute avec lui, d'accord ? Il nous confirme que lui, il a fait ce doute, il est chav mita, il n'y a pas besoin, les deux témoins de Chérim, il n'y a pas besoin de tout ça. Ça, on oublie de le dire.
On lui demande à lui, mais on lui demande pas.
Des règles de la Torah, pardon ?
On lui demande à elle aussi ?
Des règles de la Torah, vous comprenez ou pas ? Donc c'est des règles de la Torah qu'on oublie d'aborder. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de parler de ce qui pourrait être reprochable à la Torah, alors que la Torah, elle est équitable. C'est ça qui est extraordinaire. Équitable. Et ça, on oublie de le dire. Et aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'une femme qui est agouna, il faut savoir qu'une femme qui refuse, qui ne veut pas divorcer, d'accord ? Et bien même si le mari veut la divorcer, si elle refuse de recevoir son guet, le mari, il est bloqué, il n'a pas le droit de se marier. Il est bloqué. Et vous savez pourquoi c'est fait comme ça ? Que un des membres du couple peut bloquer l'autre, tout simplement pour arriver à préserver au maximum les couples et donner l'occasion aux dayanim qui sont normalement formés pour ça de pouvoir faire le shlom bayit dans ce couple, si c'est possible. Bezrat Hashem. Et on voit aujourd'hui, cette dernière année, le Rav Yitzhak Yosef a réussi, entre guillemets, à imposer plus de règles de la halakha à l'État d'Israël qui refusait de les appliquer. Comme unité spéciale de la police qui enquête et qui poursuit les hommes ou les femmes qui refusent de recevoir ou de donner le guet à leur mari. Qui sont aujourd'hui, on peut enquêter, les arrêter, les poursuivre. À une époque, il fallait que l'un des deux membres du couple porte plainte, c'était toute une histoire. Aujourd'hui, c'est systématique. Ou encore une liste de tous ceux qui bloquent leur conjoint ou leur conjointe. Et le droit de l'État et des tribunaux rabbiniques de demander à leurs employeurs d'arrêter de les faire travailler. C'est une loi qui est passée. Donc c'est des nouvelles lois qui sont passées, telles que la halakha le prévoyait. L'État a refusé de mettre ça en place. Aujourd'hui, qu'ils comprennent en réalité, l'État aujourd'hui comprend que dans leur bien-être, au niveau légal, il valait mieux, dans ce cadre-là, laisser totalement la halakha s'appliquer. Le problème de l'État d'Israël, un des problèmes qu'on a même dans tous les États, d'accord, c'est qu'il y a la loi civile qui vient empêcher l'application de la loi religieuse en termes de divorce, en termes de agounim ou de agounot. Et aujourd'hui, Baruch Hashem en Israël, ils l'ont compris, donc ils laissent les choses se mettre en place. Bezrat Hashem, ça, c'est qu'une seule chose. C'est le début des grands signes de la venue messianique. De voir l'État d'Israël qui prend de plus en plus, qui corrige de plus en plus ses lois en fonction des lois de la Torah. Bezrat Hashem, jusqu'à qu'on a la Géoula totale et qu'on voit Mashiach très bientôt. Amen, Kenny Ratson.